je vous propose de commencer cette rencontre. Et bien sûr, je voudrais la commencer en vous remerciant, hein, en vous remerciant d'avoir répondu à l'appel de la librairie Mola et de François Garcia pour venir le rencontrer à l'occasion de la parution de son troisième livre. Et c'est bien sûr autour de ce livre que cette rencontre, débat, discussion va pouvoir s'organiser. Donc merci à vous tous d'être là. Merci également à la librairie Mola d'avoir organisé cette rencontre. Et je les remercie aussi à titre personnel, car j'ai un très grand plaisir personnel à être là aujourd'hui. Et comme on me l'a rappelé, il est important aussi de présenter le présentateur, hein, parce que parfois on se dit, mais qui est cette personne qui présente François Garcia, que nous connaissons, mais lui, nous ne le connaissons pas. Donc je me présente, Philippe Baudor, je suis professeur de littérature contemporaine à l'Université de Bordeaux 3, donc c'est mon métier de me pencher sur les livres et de les lire avec plaisir, délectation, et aussi de les faire passer à un public d'étudiants, mais aussi public en général d'amateurs de littérature. Donc je le fais aujourd'hui avec un très grand plaisir. Et je le fais avec un plaisir d'autant plus grand que j'ai aussi été cet enfant qui s'est éveillé à la vie, pas très loin du carrefour, du cours de la Marne, du cours de l'Isère, qui a entendu tous ces bruits, qui a senti toutes ces odeurs, bref, qui a forgé aussi son imaginaire et sa sensibilité sur les trottoirs de la rue Bergeon, de la rue Kléber. Bref, à l'époque, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, nous nous retrouverions non pas dans ce quartier-là, mais autour de ce quartier-là, mais dans un autre lieu, beaucoup plus auguste, beaucoup plus solennel, pour évoquer tous ces éléments-là. Donc, nous allons aussitôt, bien sûr, nous tourner vers François. Je vous propose d'organiser cette rencontre comme on le fait habituellement, c'est-à-dire, je dirais, quelques mots brefs, hein, de présentation, d'introduction. Hein, je pense que vous connaissez son œuvre, vous connaissez peut-être ce roman-là, mais il est peut-être intéressant d'en dire quelques mots pour fixer le cadre de nos échanges. Et puis ensuite, je poserai des questions, et c'est surtout François qui nous parlera de l'intérieur de son travail d'écrivain. En guise d'introduction, je voudrais dire très simplement qu'il s'agit là de son troisième livre, hein, ce qui est important. Le premier, vous vous en souvenez probablement, c'était « Jour de marché », hein, qu'il avait publié en 2004 chez Liana Levy. Le deuxième, « Bleu ciel et or, cravate noire », déjà publié chez Verdier. Et donc, ce troisième roman, « Federico », chez Verdier aussi. Alors, peut-être pour situer ce troisième roman par rapport aux deux précédents, je crois que c'est important pour tout écrivain et pour François Garcia tout particulièrement. Je crois qu'on peut dire que un premier roman publié, d'une certaine manière, c'est toujours un exploit. C'est un exploit d'abord de mener à son terme un projet d'écriture personnelle, hein, que beaucoup portent en eux, mais que peu sont capables de porter jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire jusqu'à un degré d'élaboration, de maturation du texte qui fait qu'on juge qu'il est digne d'être rendu public, hein, transmis, et que d'autres le jugent aussi, parce qu'il ne suffit pas de le penser, il faut aussi que les éditeurs le reçoivent, et c'est un parcours du combattant complexe, difficile, qui suppose de l'audace, du courage, beaucoup d'investissement personnel, un exploit. Et dans le cas de François, je crois qu'on peut dire que c'est un exploit qui avait été couronné de succès, puisque c'est un livre qui a bien marché, un livre qui a été bien reçu, un livre qui a eu un succès important, et qui constitue, je dirais, pour un premier livre, c'est souvent le cas, surtout quand il marche, un peu la carte de visite, la carte d'identité, hein, ce qui permet d'identifier un auteur, on peut dire à partir de là, ah oui, François Garcia, c'est Jour de marché, hein, c'est déjà une manière de poser les choses. Le deuxième livre, surtout quand le premier a été un succès, ça peut être une confirmation du succès, ou pas, hein, c'est toujours risqué, le deuxième livre, et je dirais que pour François, ça a été, de mon point de vue, une confirmation, parce qu'il y a là, dans le deuxième, et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais le troisième est souvent, on en parlait ensemble, l'invitation ou l'incitation à revenir sur les deux précédents, le deuxième avait été une réussite dans un livre beaucoup plus resserré que le premier, resserré autour d'un narrateur central, resserré sur le plan chronologique, resserré également sur le plan de l'intrigue, de l'action. Bref, beaucoup plus de densité peut-être que dans le premier, mais en même temps une épaisseur, une force tout à fait importante. Et je trouvais que c'était un livre fort hein, sur le plan de son écriture et de la maîtrise hein, du projet littéraire lui-même. Mais le troisième, lui, constitue peut-être l'élément qui permet de dire qu'une œuvre est en train de se construire. Ce qui n'était pas le cas quand il n'y avait jusqu'à présent que deux pierres à l'édifice. Avec la troisième, on a déjà une œuvre qui se constitue. Et avec ce troisième roman, Federico, je dirais que François renoue avec l'inspiration du premier. D'une certaine manière, cette inspiration, et on va avoir l'occasion d'y revenir, je crois, aujourd'hui de façon plus précise, mais une inspiration qui s'insère fortement et dans un territoire et dans une mémoire. Je crois qu'il y a ces deux éléments qui sont vraiment, vous allez me dire, fondamentaux pour tout écrivain, mais tout particulièrement pour François, un territoire bien particulier, on y reviendra, bien identifié, et puis également une mémoire, et je crois que c'est une notion de mémoire qui était très présente dans Jour de marché, elle est aussi présente dans Federico, qu'il s'agisse d'une mémoire personnelle, individuelle, ou d'une mémoire plus collective, je crois que c'est un élément qu'on reprendra. Donc cet ancrage territorial et quelque part mémoriel est présent aussi, mais je dirais, de façon tout à fait sincère, qu'il y a dans ce troisième livre une maîtrise qui me paraît intéressante aussi sur le plan de la constitution hein, de cette œuvre que nous évoquions. Et là, pour clore cette petite introduction préalable, je dirais que la maîtrise, on va la trouver à la fois dans un projet littéraire, dans une exigence d'écriture qui ne se démentit pas par rapport au début, au premier livre. En même temps, tout en donnant un livre, je dirais, très, très lisible, très accueillant pour le lecteur. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir ces deux exigences-là, un univers littéraire dans lequel on se sent bien et en même temps un univers littéraire très, très travaillé qui répond à une exigence personnelle forte. Je dirais qu'il y a également, et tout particulièrement dans celui-ci, mais on va aussi avoir l'occasion d'y revenir de façon plus détaillée, donc je me contente de poser cet élément aussi en jalon que nous reprendrons. Il y a aussi dans ce livre un travail de documentation, un travail d'enquête historique, un travail de reconstitution d'un contexte historique qui est extrêmement précis, extrêmement important, et en même temps une grande fluidité dans la narration, c'est-à-dire que ces éléments de documentation, tout ce travail personnel que tu as nécessairement dû accomplir aussi pour nourrir ton inspiration, tout ce travail se fond de manière très facile dans l'œuvre et je dirais qu'à aucun moment il ne nuit à la fluidité du récit parce que François est plutôt un écrivain narrateur, un écrivain qui raconte des histoires et des destins de personnages. Donc une maîtrise, je dirais une maîtrise qui fait que c'est un livre qui est un livre d'ici, c'est un élément important, mais qui peut être aussi un livre de partout. Et je crois que c'est un élément aussi important d'avoir cet ancrage, et souvent d'ailleurs les deux vont de pair quand la tentative est réussie, d'avoir à la fois un ancrage fort, mais aussi une ouverture qui fait que tout lecteur peut s'y reconnaître. Alors, venons-en à la présentation de l'auteur lui-même. On va faire une présentation de l'auteur par l'auteur, je crois que c'est le mieux. Peut-être par le biais d'une question que je voudrais te poser tout de suite, pour que tu nous éclaires sur un aspect de ta personne. On est là aussi pour ça. On rencontre aussi des auteurs parce qu'on s'intéresse à eux et pas uniquement parce qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont écrit. Donc, à la fois de ta personne et de ton travail, c'est peut-être l'aspect qui apparaît moins, pour des raisons tout à fait compréhensibles dans le livre, que d'autres aspects sur lesquels nous pourrons revenir, et qui est la posture, non pas absolument singulière et unique, mais quand même assez particulière, qui est la tienne en tant qu'écrivain. Je veux dire posture, je veux dire que nous avons des écrivains qui peuvent être des écrivains ouvriers, des écrivains paysans. Il y a des écrivains marins et des écrivains aviateurs. Il y a des écrivains professeurs. Il y en a quand même un certain nombre. Il y a des écrivains écrivains, je dirais. François, lui, appartient à cette posture très particulière, mais tout de même assez repérable dans le paysage littéraire français. On ne va pas remonter à Rabelais, bien sûr, ça serait peut-être un peu ancien, mais qui est celle d'être un écrivain médecin. Alors, il y en a un certain nombre, et nous pouvons connaître, et vous pouvez connaître François en tant qu'écrivain et en tant que médecin. Et je voulais vous demander comment lui vit de l'intérieur cette double mission, cette double fonction, cette double vocation, hein, puisqu'on parle de vocation autant pour les uns que pour les autres, comment lui la vit et comment, je dirais, ces deux aspects de son travail et de sa personne peuvent pas forcément s'opposer ou se compléter comme une face diurne et une face nocturne, même si c'est un petit peu le cas, ou une face sociale et une face intime, mais comme deux éléments qui peuvent être complémentaires l'un de l'autre et qui peuvent éventuellement entretenir des échos.
Alors, je vois une cohérence dans tout ça, dans tout ce qui a toujours pu me passionner, c'est-à-dire l'intérêt pour les caractères humains, pour le mode réactionnel des individus, que je retrouve d'une certaine manière dans ce que j'observe et ce que je peux restituer en médecine, où il y a une forme d'action qui est différente, bien sûr, de celle que je vais trouver dans l'écriture, et où il y a une forme de réflexion aussi qui est distincte. Et puis, dans l'écriture, il y a aussi, je pense que ce sont deux disciplines qui me sont nécessaires. Sinon, je me serais peut-être abstenu de la seconde, d'ailleurs, c'est ce que j'ai cru devoir faire à un moment, c'est-à-dire être essentiellement médecin, comme disait Céline, musicien raté, écrivain raté, médecin raté, c'est déjà pas si mal. Donc, il y avait quand même le souci de faire correctement mon métier de médecin, mais la nécessité d'écrire a été quand même, je crois, la plus forte. Et je trouve une alternance dans les deux qui ne me gêne pas, si ce n'est que quand même les journées sont courtes et il me faut des fois le temps pour... Donc je suis assez quand même discipliné et organisé pour... Et aussi, il faut une certaine opiniâtreté pour arriver, comme tu le disais tout à l'heure, arriver à mener les deux de front, quoi. Sans compter ma famille, mes amis, que bien j'aime sûr. Voir, et voilà.
Et c'est une tradition donc que nous avons connue. Enfin bon, encore une fois, on peut penser à des grandes figures comme Georges Duhamel, comme Céline que tu évoquais, plus près de nous, Martin Winkler, qui lui aussi a écrit sur la maladie, sur le métier de médecin, ou Ruffin, ou pour prendre un Bordelais aussi, ou quelqu'un qui est passé à Bordeaux, Ségalène. Donc chacun le vit à sa façon, et chacun va puiser dans son activité et dans son savoir, dans sa compétence aussi de médecin, des éléments différents. Est-ce que c'est une tradition, pour clore ce petit point de présentation, est-ce que c'est une tradition qui peut perdurer, je dirais, cette tradition de la médecine humaniste, fondée sur un rapport à l'humain aussi, qui, quelque part, ne tourne pas le dos à la littérature et aux humanités, mais qui peut aussi se nourrir de la littérature et des humanités. Alors qu'on parle beaucoup aussi d'une médecine qui devient de plus en plus technicienne, technologique, et où cette dimension peut-être plus humaine aurait un petit peu tendance à disparaître. En tout cas, dans ta pratique à toi, ce n'est pas quelque chose qui s'est éloigné du tout, au contraire.
Ah non, que je revendique et dont je déplore effectivement la déperdition, parce qu'effectivement la sélection qui se fait des nouveaux médecins, je suis intarissable, je crois qu'il faudra refaire un nouveau débat là-dessus. C'est un sujet très douloureux effectivement, parce qu'on voit que le sens de l'humain qu'avaient autrefois les médecins se trouve encore chez quelques jeunes médecins, il ne faut pas généraliser, mais je dirais qu'il y a, pour des raisons complexes et multiples, mais qu'on peut quand même maintenant facilement identifier, et qui procède quand même du cynisme de notre société, on a sélectionné plus facilement des médecins qui sont des techniciens et des gens qui ont une aptitude à manier la science, la technique, avec de ce fait une grande certitude, une grande confiance, je dirais, dans cette science. Et il faut quand même, peut-être qu'on est à une époque où, même si les progrès que fait la médecine sont extraordinaires, il faut quand même remettre la médecine en perspective. Donc depuis Hippocrate, puisque tu parlais de Rabelais, depuis Hippocrate, depuis Galien, depuis... Voilà. Donc tout ça, il y a une histoire de la médecine dans la pensée occidentale qu'il ne faut pas perdre, et je crois que c'est quand même un souci, c'est très important. Voilà. Donc je souhaite quand même qu'effectivement cette notion humaine de la compréhension de l'autre, des caractères continus. Sans passer tout le débat sur ce problème, je voudrais juste dire qu'il y a effectivement un pont et un appel un petit peu des médecins vers les écrivains et des écrivains vers les médecins qui est très intéressant, parce que je crois qu'il y a un souci effectivement de l'étude des caractères dans les deux. Et d'ailleurs, on voit beaucoup d'écrivains, allez, citons Mauriac, Proust, qui avaient dans leur famille des professeurs de médecine, des gens qui pouvaient leur apprendre la sémiologie, les caractères. Et ce qui est très important, c'est quand on trouve quand même chez les grands romanciers une cohérence des caractères. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, par exemple, de ce caractère qu'on va voir à la page 30, et puis à la page 100, on aura un autre aspect de ce caractère. Et quand on est médecin et qu'on connaît un petit peu le profil psychologique, on retrouve cette cohérence, cette logique, et qui fait que ça donne justement en fluidité, en solidité au projet romanesque. Mais c'est aussi parce que je crois que les vrais romanciers s'intéressent profondément aux caractères humains.
Oui. Alors, c'est effectivement ce que tu prouves toi-même dans tes livres, cet intérêt pour les caractères humains, parce que, comme je le disais en introduction, et on va en venir plus directement au livre, ce sont des romans qui sont très très fortement centrés autour de destins individuels, de caractères trempés, de personnalités très très fortes. Alors avec une grande continuité, j'aimerais qu'on aborde peut-être ce premier aspect, grande continuité dans l'élaboration de l'univers romanesque. Bon, il arrive que certains écrivains soient des écrivains parfois plus nomades, qui occupent un territoire ou un espace à un moment donné, puis qui ensuite se déplacent. Là, on a au contraire, je le disais, un ancrage fort, et je crois qu'il est intéressant de repartir de Jour de marché pour entrer dans l'univers de Federico. Jour de marché, c'était donc essentiellement la première moitié du XXe siècle, c'était une communauté bien identifiée autour du marché des Capucins, comme le titre l'indiquait très fortement, l'ancrage était très fortement marqué par le titre lui-même, avec déjà des histoires un petit peu parallèles qui finissaient par se rejoindre. On va revenir sur ce mode de construction dans Federico. Et puis, le deuxième roman maintenait, je dirais, cet ancrage territorial-là, mais en se déplaçant un petit peu dans le temps, puisque là, on était dans les années 70, autour d'un personnage central, narrateur de son propre destin, qui, à lui seul, je dirais, dominer l'ensemble du rond. Et puis, avec Federico, nous revenons, on a le sentiment, quand le lecteur que j'ai été, que nous sommes un certain nombre à avoir été, et que nous serons sûrement encore plus nombreux à être demain, quand le lecteur entre dans Federico, il a quelque part le sentiment de retrouver avec plaisir, je dirais, un univers qui est un univers qu'il a déjà connu, qu'il a déjà identifié, et quelque part de renouer un lien. Alors, pourquoi dans ce troisième roman, pourquoi cette volonté de renouer le lien, pourquoi revenir sur ces éléments qui avaient déjà été posés, une sorte de préambule, d'introduction avec le premier roman? Est-ce que tout n'avait pas été dit? Est-ce que certains éléments avaient été laissés en suspens? On peut le dire autrement. Est-ce que le matériau romanesque que nous voyons ici dans Federico, il était déjà prêt à la suite de Jour de marché, ou est-ce qu'il était plutôt en attente dans ta tête, quelque part, dans ton cœur, que dans des dossiers ou dans des tiroirs ?
Alors, je pense qu'il n'était pas trop dans ma tête. Mmh. Il était, en fait, il s'est trouvé que quand j'ai voulu, enfin, j'étais porteur de Jour de marché. Les deux premiers livres, j'en étais porteur, parce qu'en fait, j'aurais, je crois, effectivement, était plus habile de faire une suite de Jour de marché, vu le succès. Moi-même, j'étais sur la lancée de ce livre, j'aurais pu continuer, faire un petit peu évoluer les héros. Maintenant, j'avais quand même le souci de raconter cette autre communauté qui était celle de ces... au-delà, simplement, c'est là où, peut-être, mais par ma faute, il y a eu un malentendu, c'était pas simplement l'histoire des toreros, mais c'était l'histoire de tous les artistes, à savoir jusqu'où on peut aller dans une vocation artistique. C'est ça qui me tenait à cœur dans Bleu ciel et hors cravate noire, même si, effectivement, je décris essentiellement la société du milieu tauromachique, et puis la fin des années, la fin du franquisme, les années à la fin du franquisme, et les années qui suivent 1968 en France. Donc j'étais porteur de ces deux livres et l'envie de revenir, finalement, il s'est trouvé que j'ai plusieurs lieux de mon enfance. J'en ai, enfin, dans la réalité, j'ai grandi près de Saint-Seurin, j'ai eu beaucoup d'attaches familiales de ce côté-là. Je me sens également très français, mais c'était un lieu quand même qui, d'un point de vue romanesque et affectif, m'a beaucoup interpellé, et où je me suis senti... En plus, j'ai été médecin quand même 20 ans dans cette communauté. J'ai eu d'abord la nécessité de témoigner de cette communauté. Comme dit un ami, de ne pas la laisser mourir un peu plus. Et donc même la faire revivre encore. Et d'ailleurs, je crois que s'il a eu du succès, le livre, c'est parce que, justement, je crois que j'ai touché juste quant à la restitution de ces moments-là et de ces caractères-là dans une époque donnée. Ensuite, c'est devenu un peu le lieu de mon enfance, mais aussi le berceau de mon écriture. À savoir que j'ai trouvé, je crois, un rythme qui me convient, qui m'est propre, un ton que je tâche de rendre le plus juste possible pour rendre les émotions des personnages. Et cette langue, populaire et poétique me convient. J'essaie d'y progresser par rapport au projet des trois livres que tu as décrits. Il y a chaque fois quand même le souci moi de progresser dans ma langue, dans mon écriture, dans ce que je considère essentiel dans l'écriture d'un livre, à savoir essentiellement le style et la structure. Alors ce sont des choses assez connues, mais enfin encore faut-il les mettre en pratique. Et donc, il y avait une... On y reviendra peut-être, mais Jour de marché avait une construction très particulière et qui m'effrayait un peu pour un premier livre. Je la trouvais assez audacieuse. On y reviendra peut-être dans sa construction. Ensuite, la construction de la structure de Bleu ciel et or, cravate noire, qui a eu un vrai succès d'estime auprès de gens que moi-même j'estime beaucoup, mais qui n'a pas eu le succès... je dirais le grand public du précédent, a été une autre écriture, une autre structure, mais qui était toujours, imposée par la nécessité d'être au plus près du sujet, de le restituer le mieux possible. Enfin, quand on arrive au troisième, je voulais surtout parler depuis mon enfance. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de souvenirs, comme beaucoup, mais le lieu de l'enfance me paraissait essentiel en littérature. Je suis pas le premier à le dire, mais et donc cette découverte du monde adulte, cet émerveillement, mais en même temps cette découverte du mal par un enfant, cette découverte de la jovialité, mais aussi des drames que peuvent vivre les adultes. Tout ça m'intéressait, et tout ça m'intéressait à travers ma petite colonie, ma petite communauté de gens, certes simples, mais dont la psychologie n'est pas moins complexe qu'un bourgeois qui s'ennuie, par exemple, et qui n'a rien à dire. Voilà.
Et est-ce qu'il fallait pour venir vers cette enfance-là, est-ce qu'il fallait passer par, ou peut-être pas, c'est une vraie question, beaucoup plus qu'un sentiment de ma part, est-ce qu'il fallait passer par ce qu'il y avait avant cette enfance? Est-ce qu'il aurait été impossible d'aborder directement, puisque tu nous as dit que en donnant les deux premiers, tu avais vraiment donné ce qui, dans un premier temps, constituait tes deux vrais projets, c'est-à-dire tout ce qui précédait les années 50, quelque part, et puis ensuite, un moment particulier des années 70. Est-ce qu'il fallait passer par ces deux moments-là d'abord pour pouvoir aborder ensuite plus sereinement et plus facilement ce troisième moment?
Certainement. C'est-à-dire que quand je dis que je voulais témoigner absolument de cette communauté du marché, au-delà du marché, d'ailleurs, je dirais que c'était un peu, alors que j'aime beaucoup Mauriac, mais c'était un petit peu l'autre aspect de Bordeaux, quoi. Enfin, on dit toujours Bordeaux, ville bourgeoise, Bordeaux, ville du Sud, Bordeaux, ville populaire, Bordeaux, ville vivante, conviviale. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, quand même, aussi, si j'avais le souci d'écrire un roman, c'était aussi avec, comment dire, la modernité devait passer par la langue. Si je pouvais avoir une ambition, enfin, toute humilité, Dieu sait que c'est effrayant de se lancer dans un projet pareil et qu'on doute au quotidien que c'est difficile. Mais en même temps, si on a l'ambition, si on a une certaine, comment dire, admiration pour la littérature, on sait que si on s'y attaque, il faut quand même être exigeant et ambitieux. Donc il y avait, sans être révolutionnaire, le souci quand même d'innover au moins dans ma langue. Tout voilà. Et ça, c'est quand même très très important. Et je crois que si j'ai tardé à me mettre en route, c'est parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu la conviction que là, je tenais effectivement un ton, un rythme qui me permettait, avec une construction qui n'est pas un procédé, qui était vraiment, qui me venait naturellement et qui me vient, je dirais, de plus en plus naturellement, d'où peut-être ce que fort aimablement tu dis, c'est-à-dire que je me sens peut-être plus à mon aise maintenant dans cette écriture, elle vient plus facilement, encore que là aussi il faut travailler. Et c'est d'où le projet tel qu'il s'est élaboré de ce troisième livre. Au départ, je voulais parler de mon enfance. Comment ça venait ça? Je sentais que l'enfance, c'était les années 50. Qu'est-ce qui se passait dans les années 50? Finalement, la société française commence à s'embourgeoiser, commence à découvrir le confort, ce qui est pas du tout méprisable, mais qui, d'un point de vue romanesque, ne peut ne pas suffire. Et puis, quand on regarde bien, très rapidement surgissent à ce moment-là des souvenirs qui, quand on est romancier, vont frapper beaucoup plus. C'est-à-dire le souvenir d'une manifestation du FLN matraquée par la police, les gens en sang quand vous êtes un enfant. Vous en souvenez, quand vous voyez votre voisin revenir très gravement déprimé ou perturbé de la guerre d'Algérie, etc., qu'on appelait à l'époque les événements. Puis que vous entendez les adultes parler de ces choses-là, il y a quelque chose qui rôde, qui vous fait comprendre que on n'est pas simplement, c'est pas simplement, comment dire, l'apparition de l'ADS et de la télévision qui définissent cette époque-là. Donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'Algérie, ce qui était une gageure puisque je ne suis jamais allé en Algérie, mais c'était d'un point de vue littéraire, intéressant aussi d'attaquer un sujet qui n'était pas du tout autobiographique et dans lequel il a fallu que je m'immerge de façon conséquente pour être le plus rigoureux possible, le plus loyal possible avec tous les protagonistes de cette époque et de cette guerre terrible.
Alors, puisque tu as commencé à aborder cette question-là et cet aspect-là, on va peut-être continuer sur cet aspect-là. On reviendra après sur ce qui constitue le travail de l'écrivain, c'est-à-dire le travail de la voix, le travail du rythme, le phrasé, etc. On reprendra cette question-là, qui est une question très, très importante. Mais puisque tu le dis, effectivement, sur le plan chronologique, c'est un élément très, très important. C'est l'enfance, mais l'enfance, elle se déroule dans un contexte historique et politique particulier. On est dans les années 57, 58 essentiellement, à ce moment-là, donc au plus fort des événements d'Algérie, avec un contexte politique qui vacille, qui bascule. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit cette communauté que tu évoquais, mais que tu évoquais déjà dans Jour de marché aussi, à travers les bouleversements de l'histoire, parce que, bien sûr, les individus pris dans leur réalité, pris dans leur vécu, ils sont tous à la fois des individus pour lesquels compte leur environnement familial, sentimental, affectif, mais aussi pour lesquels compte aussi énormément le bouleversement général de l'histoire. Ils sont envoyés à la guerre, ils reviennent, ils partent. On avait ça dans Jour de marché. Ici, le contexte particulier, c'est celui de ces événements d'Algérie. On va y revenir, mais en même temps, c'est aussi un élément extrêmement important et pertinent et piquant du livre. C'est aussi, comme tu le dis, l'apparition de tous ces petits signaux qui bouleversent le quotidien, l'apparition de la télévision, l'apparition de l'électroménager, toute ce désir de modernité qui est vraiment au cœur de la société française et qui travaille fortement cette communauté, marquée aussi, et ce quartier, je dirais, au-delà, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a cette dimension aussi de quartier, métiers, de communautés très élargies, sa dimension très cosmopolite et très ouverte, où il y a vraiment un brassage fort aussi, un échange très important, donc qui est aussi travaillé par ces événements historiques importants. Alors, l'Algérie apparaît essentiellement, pour avancer un tout petit peu dans le livre et donner une idée un peu plus précise de ce qui s'y déroule, apparaît à travers deux personnages qui viennent en quelque sorte encadrer le personnage narrateur quelque part central, qui est Federico, qui est le jeu, qui est celui qui se souvient, qui est l'enfant de cette époque-là. Et ces deux personnages, plus âgés que Federico, sont eux directement concernés par ces événements, puisque l'un d'entre eux, Maxime, va être conduit à fait partie des appelés, hein, du contingent qui vont partir en Algérie, et l'autre, Karim, qui est lui un émigré, un Algérien qui vient s'installer à Bordeaux et qui va être lui aussi de son côté et à travers son propre camp, ce qu'il va identifier comme son propre camp, s'impliquer très fortement dans ces événements. Donc on a à la fois, je dirais, l'enfant, on a les adultes d'une génération qui est peut-être un peu moins concernée parce qu'ayant déjà vécu sa vie, son temps, étant déjà plus installé, et puis une génération intermédiaire, je dirais, pour le dire rapidement, avoir 20 ans, à cette époque-là, qu'est-ce que ça signifie ? C'est toujours important. Il y a toujours des romans, je suis toujours intéressé par les romans générationnels. Qu'est-ce que ça signifie avoir 20 ans en 1830 ? Qu'est-ce que ça signifie avoir 20 ans en 1914 ou en 1915 ? Qu'est-ce que ça signifie avoir 20 ans à la Libération ? Il y a des romans comme ça qui se penchent sur cette question-là. Et là, eux, ils ont 20 ans ou à peine plus. Il y en a un qui est sur 6 termes. Enfin, disons, ils sont dans la vingtaine à cette époque-là. Donc, il y a vraiment cet encadrement historique à travers ces deux personnages qui donne, je crois, un ton très particulier et puis une ouverture aussi forte au roman.
Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Oui, effectivement, avoir 20 ans. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est une époque où le destin commence à frapper et où ils sont amenés à se déterminer. Sans tout raconter, l'histoire de... Enfin, les deux, justement, dans leur destinée, connaissent, comment dire, une problématique qu'il faut résoudre au niveau du personnel, du privé, du social et de l'historique, si j'ose dire. Et donc, ça donnait une dimension au personnage qui m'intéressait beaucoup, puisque ça pouvait, dans une certaine mesure, donner, dans la mesure où il y a le côté implacable du destin et inéluctable de la mort, si j'ose dire, c'est la tragédie, quoi, qui est là, hein, sans en dire plus. Mais c'est aussi leur choix. Ils sont amenés à faire des choix, c'est-à-dire par fidélité à eux-mêmes ou fidélité à leur milieu social. Par exemple, Maxime, qui est un jeune ouvrier de Bacalan, et qui est étudiant en même temps, qui est pour l'indépendance de l'Algérie, qui a des convictions anticoloniales. Mais comme, c'est intéressant de le préciser, à l'époque, on n'était que 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le sentiment de patriotisme, de faire de son devoir, même si on avait des idées contraires à la politique que menait le gouvernement, était forte. C'était surtout chez quand même des intellectuels qu'on a vu quand même des gens faire, je dirais, sécession, quoi. Mais beaucoup partaient, quelles que soient leurs convictions personnelles, faire leur devoir dans l'armée. Ça, c'est un point important. Donc ça entraîne une destinée dont le livre décrit ensuite... Enfin, on décrit, disons, sa vie au sein de l'armée, ce qu'était la vie d'un appelé en Algérie, avec des conditions fort difficiles de confort, moral, de privation de liberté. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même soumis aux ordres dégradés. Ils n'étaient pas toujours bien vus ni par les encadrés, ni par les engagés, pardon, ni par l'encadrement. Et même la population s'intéressait beaucoup plus aux gradés, à la vie des gradés, qu'à tous ces appelés, dont les conditions aussi alimentaires, vestimentaires, d'hygiène, tout ça n'était pas quand même... L'armée n'était pas si riche que ça dans les années 50, et le budget manquait un peu pour tous ces appelés sur le terrain. Donc la vie était difficile. Ensuite, Karim, lui, connaît un double destin, si j'ose dire, et en tout cas, il dit dans un moment dans le livre qu'il est en double exil de lui-même, c'est-à-dire que c'est un fils notable d'Alger, et qui malheureusement ce père décède, et puis ensuite il est soumis à la violence d'un frère qui le chasse quasiment de la maison, et il part pour chercher une forme de liberté, en se disant qu'en métropole, peut-être que les Européens seront peut-être plus tolérants, qu'il y aura moins d'inégalités pour lui, sur ce que croyaient effectivement beaucoup d'Algériens. Hein. Et donc ce jeune Algérien part à Bordeaux et vient à Bordeaux. Pourquoi il vient à Bordeaux ? Parce que c'est un port. Et alors ça, c'est un détail, parce que j'ai rencontré quand même différentes personnes. Et j'ai mené quelques petites enquêtes, j'ai recueilli des témoignages, etc. Et ça, c'est une histoire vraie. Parce qu'il y en a un qui me dit, je suis venu à Bordeaux parce qu'en fait, il y avait 3 joueurs algériens dans l'équipe des Girondins de Bordeaux. Voilà, tout simplement. Et donc, il vient à Bordeaux où il va mener une vie en double exil, quoi. En double exil de lui-même, de ce qu'il espérait pour lui-même, puisqu'il espérait faire des études, même si c'était difficile et que là aussi, il y avait des inégalités très importantes dans les études entre musulmans et européens en Algérie. Et puis également, comment dire, le double exil, parce qu'il a été obligé de quitter sa famille, quoi, un petit peu, avec le décès de son père, la violence de son frère. Donc, un destin, il sera recueilli, et puis embrigadé, je dirais, au sein du FLN, et ensuite on verra un petit peu ce qui se passe, et ça me permet également de jeter, comment dire, de mettre un œil de la caméra, d'une façon subjective, du côté des Algériens. C'est quand même intéressant de voir comment eux ont subi et ont vécu la guerre, c'est-à-dire ce qu'ils ont subi, mais aussi. Pourquoi il y a eu une telle violence aussi, sans l'excuser, hein. C'est-à-dire expliquer un petit peu comment ça se déroulait. Alors, violence qui pouvait s'exercer contre la métropole, contre la France, contre les Européens, mais aussi entre musulmans, puisque je décris les guerres qu'il y avait entre les messalistes, c'est un mouvement nationaliste plus modéré, qui ont été quasiment... Enfin, ils avaient l'ordre de l'FLN de les liquider, hein, tout simplement. Hein. Ça a fait quand même 4000 morts en France et 12000 agressions. Quand même, donc c'était pas rien. Même si ici, dans la région, je romance un peu en situant les combats ici à Bordeaux, parce qu'en fait, c'était surtout dans le nord de la France et en région parisienne. Mmh. Mais il y en avait quand même. Donc, voilà, deux destins, ils sont obligés de payer les conséquences de leurs engagements. Mmh. Et pour revenir très brièvement à l'écriture, ce qui m'importait dans ce projet, c'était effectivement tous ces fragments éclatés d'une même époque, comme ça, de construire finalement le livre... l'éditeur a mis le miroir brisé des années 50, mais c'était parce que je lui avais expliqué que c'était un peu mon souhait de créer ça avec des reflets. Et je dirais, ces deux jeunes gens vivent deux pans symétriques, leur tragédie comme deux pans symétriques dispensés par la même mort, la mort de la même guerre. Quoi, voilà. Alors ensuite, il y a effectivement une violence qui appelle l'autre, et c'est ce que dénoncent Camus et aussi Mauriac, par exemple, quoi, parmi d'autres. Quoi. J'ai pas fini, pardon. Je voulais dire que par rapport à l'écriture, ça m'a permis un travail de modulation au niveau du même style, si vous voulez, à l'intérieur du même style, d'avoir une modulation du timbre de voix, du rythme, du timbre. Enfin, c'est de nuancer mon style selon les protagonistes. Et ça me paraissait un enjeu. Je crois qu'il faut chaque fois, à chaque livre, remettre son titre en jeu, si j'ose dire. Et c'était cet enjeu-là, le troisième étant fort important pour moi, et c'était celui du départ, c'est-à-dire parler, le narrateur étant un enfant. Alors, il y a un petit subterfuge, c'est-à-dire que pour trouver ce ton juste de l'enfance, et que ce soit pas trop nié, pas trop convenu, le petit Federico est en fait... le narrateur enfant, mais et ce qui lui permet de prendre recul avec le temps et qui lui permet une sémantique bien plus riche, aussi c'est le narrateur de sa propre enfance. Mmh. Voilà.
Oui, on va revenir justement pour terminer un petit peu sur ce contexte historique. Federico ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Federico est enfant. Federico n'a pas conscience de ce contexte politique et historique. Et le petit François de l'époque, qui se remémore à travers Federico son enfance, n'en avait pas conscience non plus. Ça veut dire que le François auteur a dû faire, et tu nous l'as expliqué, un petit travail, et même un gros travail de documentation. Alors, j'aimerais que tu y reviennes un tout petit peu, parce que ce qui m'a frappé dans le livre, ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est que, je le disais rapidement en introduction, introduction, c'est que ce contexte historique, il est à la fois très présent, on le suit avec beaucoup de précision, c'est-à-dire qu'on voit véritablement les événements en arrière-plan se dérouler, et on voit bien comment les différents personnages sont profondément impliqués dans un certain nombre d'événements importants qui marquent, qui scandent l'histoire de France, et en même temps, ce contexte historique n'est jamais plaqué de manière un petit peu lourde, comme on peut parfois la voir dans des introductions où de temps en temps on fait une sorte de petit rappel historique, si vous voulez, où on fait un petit récapitulatif avant de rembrayer avec l'histoire. Le tout est très très bien diffusé, dilué dans le roman, mais j'aimerais que tu y reviennes un tout petit peu avant d'aborder un autre point, qui est ce travail de documentation. Je veux dire, que est-ce que c'est strictement une documentation historique, elle est nécessaire, elle est indispensable. Est-ce que c'est une documentation qui passe par des lectures, puisque ce roman s'inscrit aussi dans une certaine tradition littéraire qui évoque et qui évoque encore aujourd'hui, elle est extrêmement vivace, puisque la littérature contemporaine revient de façon très régulière, et un autre écrivain bordelais, Laurent Mauvignier, assez récemment, est revenu sur cet épisode-là avec un très très beau roman, Des hommes aux éditions de Minuit. Donc il y a toute cette tradition de représentation littéraire. Et puis, comme tu l'as très rapidement dit aussi, mais j'aimerais peut-être qu'on en dise un petit mot de plus, il y a éventuellement les rencontres, il y a les échanges, il y a les témoignages qui ont pu être apportés et qui parfois donnent une touche à la fois plus originale et puis en même temps plus humaine à des éléments qui peuvent être un peu plus généraux.
Alors, il y a différents éléments. Pour en venir à Laurent Mauvignier, justement, que j'apprécie beaucoup, mais je n'ai pas voulu lire Des hommes tant que je n'avais pas fini même les corrections de ce livre. Donc, je l'ai lu il y a un mois. Mm-hmm. Je vais le rencontrer le mois prochain à Toulouse. Mais je pense qu'on va en parler. Simplement pour dire qu'il avait dit il avait écrit un article dans Le Monde l'an dernier assez intéressant en disant c'est notre génération maintenant qui va pouvoir parler. De cette guerre dont les plaies ne sont pas encore refermées. Et c'est peut-être notre travail de jeunes écrivains. Est-ce que je peux me permettre de dire que je suis un jeune écrivain ? Mais j'ai que 3 livres à mon actif, donc. Donc de dire, nous, voilà, nous pouvons nous emparer de ce sujet, mais ça exige, j'en ai eu de suite conscience, quand j'ai vu que j'allais m'engager dans cette voie de la guerre d'Algérie et de l'Algérie, une loyauté, une rigueur, et une honnêteté foncière. Donc il y a eu deux sortes de... Très rapidement, il y a eu deux sortes. J'ai commencé par lire des romans. Des romans, quelle était la littérature algérienne, etc. Sia Djebar, Mohamed Dib, enfin bon, voilà, j'ai énormément lu. Et ensuite, je me suis imprégné, enfin, je veux dire, par là, tout ça, toute cette culture qu'il fallait, comment dire, c'est parce que c'est comme ça qu'en s'immergeant qu'on peut avoir les odeurs, les parfums, les couleurs, par exemple, il y a des plats, il y a la cuisine, il y a le mode de vie, enfin tout ça est très très important, mais il faut être totalement immergé dedans pour pouvoir le restituer de façon elliptique même. Hein, voilà, donc ça c'est très important, c'est un aspect. Ensuite, il y avait effectivement la documentation. J'ai énormément lu, parce que ça ne suffit pas de regarder Internet. Hein, Internet fournit des choses. Non, je crois qu'il faut lire, il faut s'immerger, il faut connaître. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais imbattable sur l'équipement de l'armée pendant la guerre d'Algérie. Moi qui ne connaissais rien à tout ça. Enfin voilà, tout ça c'était très important. Et puis ensuite... Vu comment le sujet commençait à se profiler, il y a des choses qui ont commencé. L'histoire de l'ouvrier bacalanais, j'ai travaillé comme médecin remplaçant à Bacalan, ce sont des quartiers ouvriers qui m'intéressent. C'est le Bordeaux populaire, comme Karl Vernet, Bègle et les Capucins, mais pas uniquement les Capucins, parce que tout ça, en plus, il y avait des parlers différents, enfin, il y a des modes... c'était des choses qui pouvaient être tout à fait révélatrices d'un Bordeaux populaire. Bon, voilà. Et puis, je connais bien Pierre Branat, qui, à ce moment-là, publie un livre, c'est le récit d'un appelé, pendant la guerre d'Algérie. Donc, on s'est rencontrés, on se connaît bien. Il m'a raconté un petit peu sa guerre, quoi, un petit peu, et ce qu'il en était, quoi. Donc ça, c'était important. Et puis d'autres, beaucoup d'appelés de, ou de gens qui avaient un cousin qui a été tué, enfin d'autres qui ont eu un jeune dans leur famille qui a un peu perdu la raison ou qui a eu du mal, qui a été traumatisé par ce qu'il a vu faire ou ce qu'il a peut-être pu faire et qui n'aurait jamais fait des actes du... Parce que quand même, ça a été une guerre de la barbarie, hein, faut dire des deux côtés. Et ça, je crois que d'abord, enfin, j'y reviendrai avant qu'on termine, parce que ça a été aussi quand même de mes motivations, de pas dénoncer ça, mais le dire quand même. Bon, voilà, je crois que c'est important. Donc, il y avait ça. Et puis, de l'autre côté, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ou deux Algériens, dont un... que j'ai rencontré assez régulièrement et qui a fini par me raconter son appartenance au FLN. Ça s'est pas fait comme ça, ça s'est fait avec un travail, je dirais, de confiance mutuelle qui a été long. Et il m'a raconté effectivement comment ça s'organisait, comment se passait, je sais pas, la collecte des fonds auprès des musulmans à Bordeaux ou ailleurs. Comment, par exemple, ils traversaient la frontière espagnole pour faire transiter des choses, enfin plein de choses, les trafics, les armes, tout ça, quoi. Donc c'était passionnant. Et puis, voir un petit peu. Comment il se situait par rapport quand même à la violence qu'avait exercée le FLN et qui n'est pas mineure quand même. Hein. Donc pour un homme qui se dit humaniste, je voulais savoir un peu comment il avait vécu ça et quelle était la part du devoir révolutionnaire et du devoir de la discipline. Et comme dit Camus, hein, celui qui choisit les principes plutôt que son frère, celui-là n'est pas de ma race. Enfin bon, voilà, enfin, l'histoire, je le dis approximativement, mais c'est ça. Et donc, il y avait vraiment... c'est tout ça que j'ai fait, quoi. Tout ce travail de collection de témoignages, et puis de récits, et puis de lectures. Voilà. Donc il fallait, je crois, pour bien restituer, pour avoir ce que tu veux gentiment dire, c'est-à-dire qu'il y a un ton juste, d'ailleurs, ni trop bien pensant, ni trop didactique, il fallait avoir la bonne sensation... par exemple, la scène terminale de le combat dans le maquis, dans le Djebel. Fallait vraiment. Là, j'ai lu plein de récits de militaires. J'ai écouté, j'ai interviewé des militaires. J'ai rencontré plein de gens. Et après, j'avais la conviction que moi, je voyais les choses comme ça, avec le plus de loyauté possible pour les autres.
Voilà. Et ensuite, donc, il faut le dire. Et tout le travail ensuite d'écriture, c'est le travail de mise en voix, puisque tu en as parlé à plusieurs reprises. Et ça, c'est un élément très, très important. D'ailleurs, tu évoquais Mauvigné, dont le dernier roman se déroule dans un arrière-fond historique qui est tout à fait commun, celui de la guerre d'Algérie. Mais en même temps, son œuvre, comme celle de nombreux auteurs contemporains, c'est aussi un espace qui permet l'émergence de voix. Et la notion de voix est très importante. On a pu dire que, de même que le cinéma... est entré à un moment donné de son histoire dans l'âge du cinéma parlant, le roman est aussi entré dans l'âge du roman parlant. Et dans les romans que tu nous proposes, effectivement, on parle. On parle, il y a cet effet de voix qui est un effet extrêmement important et qui est un effet extrêmement délicat à restituer, parce que, comme tu le disais bien, ce sont des voix qui, tout en gardant le naturel, la simplicité, la vivacité de l'oralité, constituent aussi des personnages complexes, divers, variés, les uns les autres, et qui demandent un travail d'ajustement, qui est un travail extrêmement important. En tout cas, je crois qu'il faut que les auditeurs le sachent bien, ce sont des romans aussi dont le plaisir de lecture passe beaucoup aussi par le fait d'entendre ces voix-là. Oui. Et des voix qui sont des voix de la rue, des voix simples, des voix du quartier, des voix qui ont leur accent. Et on sait très bien qu'il ne suffit pas de les avoir dans l'oreille pour les faire passer sur le papier. Il faut aussi faire tout un travail de restitution, qui est un travail délicat.
Très important. C'était ça, parce qu'en fait, ça je l'ai déjà dit à l'occasion de Jour de marché, mais si j'avais écrit comme parlaient les maraîchères des Capucins, je peux vous dire que vous auriez peut-être ri, mais enfin, ça aurait été cru quand même, hein, comme langage. Donc il fallait restituer vraiment, comment dire, la réalité de leurs sentiments, de leurs petits drames, de leur vécu. Il y avait une translation à faire par rapport à ça. C'est ça qui était difficile, puisque même dans Jour de marché, j'ai mis des petits... des petits encarts un petit peu qui sont, où, d'un point de vue linguistique, il y a l'humour des Capucins, là, le vrai, quoi. Hein. Et le reste est mon écriture. En fait, c'est, comment dire, restituer un petit peu ce langage populaire à travers l'écriture. C'est ce que tu dis, quoi. Voilà. Donc, et c'est le travail, je crois, qui est important. Alors... comment je me sens bien dans cette écriture vivante, et pourquoi je me sens bien parce que je crois que je mets en scène et en même temps j'entends mes personnages. En fait, je crois que c'est assez cinématographique. Et donc j'arrive à donner un côté vivant. Quand on s'est vu, je t'ai dit, tu vois, enfin, tu me disais, mais c'est frappant parce qu'on a l'impression d'être dans le temps présent. Et en fait, c'est ça, faire surgir. Comment, en fait, il y a une compression des temps, hein, un peu. Enfin, on en reviendra peut-être dans la construction des livres. Pourquoi comment le temps peut être ou immobile ou au contraire évolutif, enfin, selon pour les caractères, etc. Donc, laisse passer le temps. Mais il y a ce faire vivre ces personnages, quoi. Et comment les faire vivre? Et effectivement, ça m'est venu naturellement, disons, cette inclusion du style direct dans le style indirect. Enfin, bon, c'est brive de dialogue et de pensée à l'intérieur même de la phrase. Et comme ça, je rends mes personnages vivants et j'ai le ton juste. Enfin, je crois, parce que je m'y sens bien. Hein. Autre chose, alors, comment dire, je veux pas trop faire de référence, mais enfin, le titre est là, hein, quand même. Je veux pas tout ibériser dans mon écriture, quoi, mais enfin, puisqu'il y a Federico. Il y a aussi la musique. Il y a la musique. Ce rythme intérieur que j'ai, et qui est quand même très très important. Et il y a, quand on dit les artistes flamenco, quand le chant le plus pur est accompagné du palmeo, ce qu'on appelle a palo seco, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un rythme quasiment indéchiffrable, mais intérieur, hein, qui donne sa musique intérieure, quoi, qui donne, et on sait quand on est en harmonie. Et c'est un rythme où il y a des silences et où il y a des mots. Voilà. Donc ça, je crois que ça m'accompagne. Et le titre n'est pas là par hasard. C'est que... Et pourquoi la famille Lorca? Et pourquoi... Enfin, voilà. Garcia, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, il y a cette... mais il y a ce rythme-là qui quand même accompagne cette écriture avec, de temps en temps, des modulations, quand il y a des descriptions, quand on est sur la terrasse, que ça sent le jasmin à Alger. Voilà. Tout ça, ça peut changer, ça peut varier. Mais il y a quand même cette nécessité musicale et il y a surtout cette recherche du ton juste et d'un travail qui enrichit un petit peu chaque fois l'écriture et qui soit partageable. Quoi, voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même que ce qu'il y a, c'est qu'il faut commander que ce qui est informulé chez l'autre soit un peu révélé à soi-même. C'est ce que dit Léris, hein, c'est pas moi qui le dis. À soi-même, en même temps qu'on le révèle aux autres, quoi. Voilà. Ça, je crois que... Et pour ça, en même temps que se révéler le fond, se révéler la forme, quoi. Voilà. Donc, il y a cette évolution dans l'écriture, cette avancée, grâce à cette conviction qu'on est dans un tempo, un rythme qui accompagne. Ce que je voudrais dire pour finir, hein, on va pas faire... c'est que tout ça m'a été aussi... Enfin, je veux dire, Édouard Glissant, ça a compté pour moi. C'est-à-dire, Édouard Glissant, avant sa théorie de la créolisation de la langue, mais c'était déjà le cas, avec des... Alors, pour le coup, ça remonte aux années 50, des recueils comme le sel noir, où effectivement, il introduit des termes créoles dans... C'est très important. C'est très, très important. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ce ton du Sud... qui vient peut-être d'Outre-Pyrénées, mais qui vient aussi d'Occitanie, qui inonde un petit peu le Sud et qui fait notre voix, qui fait notre ponctuation. Pourquoi ne pas l'injecter un peu dans la langue, tout en ayant un respect profond de ce que doit être une structure classique romanesque. Voilà.
Mais en même temps, je crois que tu l'exprimes très très clairement, c'est-à-dire que, alors qu'il y a des romanciers qui peuvent être des romanciers de l'œil, c'est-à-dire qui vont surtout passer par la description du personnage, toi tu es plutôt un romancier de l'oreille, tu as besoin d'entendre ton personnage et de nous le faire entendre, et c'est par la voix du personnage qu'effectivement il prend forme et qu'il prend vie dans notre imaginaire à nous. En même temps, peut-être que tu as pu bénéficier aussi du fait que le lieu central de quelque part de la trilogie, mais surtout du premier et du troisième livre, le lieu central est un lieu qui, à sa façon, est un lieu de parole. C'est-à-dire que le lieu central, c'est quand même une épicerie. C'est-à-dire c'est un endroit qui est un endroit socialement très, très marqué, où l'on se rencontre, où l'on parle. À côté, il y a l'annexe de l'épicerie, qui est le café. Effectivement, bon, de temps en temps, on boit un verre de vin blanc au café, mais enfin, on y va essentiellement pour raconter. Et le personnage très haut en couleur, qui est le personnage d'Alfred, par lequel s'ouvre le livre, c'est surtout un beau parleur. C'est quelqu'un que l'on attend avec impatience au café, parce qu'il va enfin commenter, mais autant commenter la Coupe du Monde de football, que commenter les événements politiques, etc. C'est-à-dire, on l'attend comme une sorte de prophète, c'est une sorte de Saint-Jean bouche d'or, quoi. Il arrive, et puis aussitôt, tous les visages s'éclairent, il va enfin nous parler. Donc, c'est un lieu qui est vraiment un lieu capital, parce que l'épicerie, c'est un lieu où l'on parle, mais c'est un lieu aussi où l'on vient chercher l'élément vital, c'est un lieu où l'on vient chercher son alimentation, à proprement parler. Donc, on touche là au cœur des éléments essentiels, la parole, et en même temps, la nourriture, la vie, quoi. Donc c'est un lieu qui est un lieu, alors, bon, qui n'est pas choisi, qui a été donné en quelque sorte par la vie, mais en même temps qui devient pour l'imaginaire et pour l'œuvre romanesque un lieu pivot.
Oui. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que comment cet enfant aussi s'est approprié ce lieu. Je pense qu'il aurait pu être parfaitement indifférent, s'intéresser aux petites voitures et ne pas voir tous les gens qui passaient dans ce lieu quand il était à la caisse, près de ses parents, quand il était enfant. Ouais. Au contraire, si je me souviens bien de cet enfant, qui me ressemble un peu, mais pas uniquement lui aussi, quand même il a subi une petite translation romanesque, il aimait bien mettre le tablier et puis servir. Alors il était préposé aux biscuits cassés, voilà. Donc il prenait sa tâche très au sérieux. Et ça lui permettait d'observer, alors, cet Alfred, qui a quand même des petits côtés un peu à la Uranus, comme ça, enfin, avec ses, Uranus avec ses 12 litres de blanc, lui se contente de ses 12 verres de blanc, mais cul-sec par-dessus tête, enfin, voilà, il lance son cri, et effectivement, il est très plébiscité par ce côté prophétique, et d'ailleurs, enfin, il y a un moment, quand De Gaulle commence un petit peu à faire déchanter là, quelques supporters après le « Je vous ai compris », il y en a un qui lui dit « Oh, mais Alfred, c'est toi qu'il nous faudrait au gouvernement, quoi. » Enfin, voilà. Et en fait, il y a ça, et puis il y a cette observation, effectivement, de tous les petits drames à partir de son point de vue, quoi. C'est un post-observation, mais qui est particulier, quoi. Il faut que cet enfant ait quand même ce point de vue. Il capte vite l'humour, les petits drames, il a beaucoup de sensibilité, quand même. Oui. Il y a une chose que je veux dire aussi, en ces temps de parité, c'est que, en fait, la psychologie féminine est importante dans mes livres, dans les trois, hein, différemment répartis, mais enfin, j'y attache beaucoup d'importance, et là aussi, c'est dans des milieux populaires, mais elles ont une manière, avec des intonations, de dire les choses.
En même temps, puisque tu abordes cette question, en même temps, peut-être pas pour revenir encore une fois à Mauvigné, dont le roman auquel on faisait allusion s'intitule « Des hommes », c'est quand même une histoire d'hommes, bien souvent. Et j'ai envie de dire que c'est un livre qui, je trouve, ce sont des livres, mais le dernier plus particulièrement, mais les autres aussi, qui nous interpellent aussi sur ce que j'appellerais la profonde tristesse des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une grande insatisfaction des hommes. Les hommes, pas tous, mais un certain nombre d'hommes dans ces histoires-là, peut-être les plus emblématiques ou les plus représentatifs, sont des êtres profondément insatisfaits, qui cherchent tous quelque chose sans qu'on sache exactement quoi, qui ont du mal à le trouver, qui sont parfois dans une forme d'instabilité déstabilise aussi l'environnement qui est le leur. Et parfois, pour certains d'entre eux, leur nomadisme, leur insatisfaction rend les femmes tristes aussi. Or, elles constituent quand même aussi parfois le socle, c'est-à-dire que ce sont elles qui constituent le centre de cet univers-là, alors qu'eux, ils sont parfois un petit peu à la marge, ils sont toujours un peu en quête d'autre chose, et finalement, cette profonde insatisfaction, ça teinte un peu le livre, qui par ailleurs est aussi drôle, humoristique, farcesque, mais ça le teinte parfois d'un peu de mélancolie aussi.
Je revendique totalement, hein. Je veux dire par là que c'est vrai que les hommes sont peut-être plus emblématiques de cette vision pas forcément hilarante que j'ai de la condition humaine. Hein, c'est-à-dire que, mais les trois livres, hein, les trois livres. C'est vrai que, alors que les femmes, comme tu le dis, ont quand même un côté plus terrien, plus pratique, et que même si, de temps en temps, dans la souffrance, elles peuvent se laisser aller beaucoup de mélancolie, mais il y a une vision assez mélancolique de la vie. Enfin, voilà, nous sommes de passage, les hommes gigotent, se débattent, et puis finalement meurent, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, le côté implacable du destin et le côté inéluctable de la mort. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on est désespéré, on n'est pas obligé d'être triste. Donc, on peut tout à fait ponctuer ça avec un humour plus détaché, et puis, voir un petit peu, il peut y avoir des passages, par exemple, mon second livre est quand même relativement picaresque, hein, et puis on voit des personnages hauts en couleur, et qui vraiment prennent du relief, quoi. Ils sont ces personnages, justement, que notre société actuellement perd peut-être, quoi, voilà.
Oui, d'ailleurs, parmi les passages les plus hauts en couleur, les plus drôles, il y a, par exemple, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de l'Arnaudi dans sa magnifique « C'est une déesse », qui renverse d'ailleurs un brave homme qui était en vélo. Alors ça se transforme petit à petit, une sorte de montée comme ça, ça se transforme en mouvement de fou, là. C'est totalement, totalement grotesque et en même temps amusant.
Un peu délirant.
Et délirant, etc. Oui. etc. Oui. D'ailleurs, souvent, là, c'est sa déesse, mais les voitures jouent un rôle important dans le précédent, dans le deuxième, quand il se rendait en Espagne ou quand il revenait, on savait toujours si c'était une R8, une 4L, etc. Et là, donc, on a des Chambord, on a des déesses. Les voitures sont quand même très présentes aussi. Dans
les trois livres, puisque Rafa est passionné de voitures aussi dans Jour de marché, et quand il se rend à Biarritz pour faire la Java, sitôt la guerre finie, pour voir Luis Miguel Dominguín, aux arènes de Bayonne, il loue une Studebaker, enfin voilà. Donc, je suis pas un passionné de voiture, mais je trouve qu'il y en a qui enfin, comment dire, ça a tellement... c'est pas pour rien qu'elle est en couverture du livre Mythologie de Roland Barthes. Mm-hmm. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et ça capte tellement la passion des hommes, quoi. Enfin, voilà, il y a des hommes qui sont passionnés de voiture, qui revendiquent ça, même qui s'identifient un peu à leur voiture. Donc, et c'est assez emblématique des sentiments et des actions qui se déroulent, puisque par exemple le pauvre héros là le pauvre Paco là de Bleu ciel et Or cravate noire, lui il a une pauvre 4L qui est comme une rossinante et qu'il finit par abandonner,
qui n'avait pas monté les côtes,
voilà. Et puis elle finit par l'abandonner au bord du chemin, quoi. Donc il y a cet attachement, l'autre est plus rutilante, on voit les chromes de la déesse se refléter dans les yeux de l'oncle qui est plein d'envie.
Il fait des jaloux, voilà. Terrible avec sa déesse. Dans le quartier, ça fait un tabac terrible, la déesse. Oui. Mais enfin,
c'est vrai que de temps en temps, j'ai des échappées comme ça. Alors finalement, parce qu'on m'a dit, moi je ne me sens pas apparenté du tout à Céline, si ce n'est que c'est une langue orale, quoi. Mm-hmm. Mais enfin, sinon la construction n'est pas du tout la même. Voilà, quoi. Donc mais de temps en temps, comme ça, il y a des envolées un petit peu céliniennes, comme dans le Jardin des Tuileries, ou rabelaisien, enfin voilà, quoi. Des choses comme ça, quoi.
Qui évoque bien ça.
Oui, dans Jour de marché, il y a une étape du Tour de France à marche prime aussi, qui délire bien. Bon, voilà.
Le sport est très présent aussi. Enfin, on va laisser les lecteurs découvrir peu à peu. On va peut-être d'ailleurs clore notre échange pour laisser les auditeurs donc intervenir, poser des questions, donner leurs sentiments, ou éventuellement amener François Garcia à revenir sur tel ou tel point qui les a intéressés. Peut-être un petit mot pour... non pas clore, mais enfin pour revenir sur un point que tu évoquais tout à l'heure, quand tu évoquais ton travail sur la langue, c'est-à-dire ce souci de la musicalité, ce souci du rythme, ce souci du tempo, etc. etc. Je pensais en t'écoutant justement que tu connais très très bien cette importance justement du geste, de l'esthétique et de la grâce du geste, mais tu sais que ça n'a vraiment de prix que quand la corne n'est pas loin, justement. Et là, on a aussi en permanence ce grand souci du geste juste et du mot juste, mais quand même, tout ça ne prend de sens que parce que l'accord n'est jamais très loin.
Moi, je te remercie de dire ça parce que c'est très important pour moi. Je veux dire, avec un peu d'humilité, je veux pas. Mais en fait, c'est vrai que quand Céline dit qu'il faut mettre sa peau sur la table, je crois que quand on écrit, je veux dire par là que on peut me dire gentiment que c'est un hobby, mais je pense qu'on se consume à écrire. Enfin, si on écrit vraiment. Et il faut, de la même façon. Alors, pardon pour ceux qui n'aiment pas la tauromachie, mais je vais prendre cette image tauromachie quand même. Ce qu'on appelle se croiser avec le taureau, c'est-à-dire être dans la position de la plus grande vérité possible pour tirer le plus d'émotion et de beauté possible dans la passe tauromachique. Pourquoi ? Parce qu'on est à ce moment-là, mais c'est vrai pour l'écriture aussi, et c'est vrai pour toute discipline artistique, je pense, on est à la bonne... Il faut trouver la bonne distance et la forme la plus à même... Enfin, bon, pour restituer la chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, que sentait le lecteur, mais qu'on lui permet de révéler. En fait, on n'a pas de message à donner, mais on a un élément de réflexion peut-être à transmettre, et qui n'est pas forcément le même pour chacun. Et pour ça, il faut être engagé soi-même au plus près de la vérité, et ça a un prix. Ça a un prix. Quand de la littérature considérée comme une tauromachique écrit Léris, il parle de ça, même si, après, dans d'autres écrits, il va plus loin dans l'explication. Mais je crois que cette implication est absolument nécessaire. Et on voit bien, comment dire, qu'il ne s'agit pas d'un exercice narcissique, contrairement à ce que j'ai pu entendre. En fait, on se dépouille de son narcissisme en faisant un travail comme ça. Parce que c'est une leçon d'humilité. Et ensuite, on est au plus près, on finit vraiment nu, quoi. Enfin, vraiment, et pour être au plus près de la justesse de temps à restituer. Mais tout ça, c'est un engagement qui coûte cher. Mais là, pour le coup, je peux dire quand même que mes trois passions, la tauromachie, la médecine et l'écriture, trouvent leur cohérence. Voilà, donc c'est pour ça que je te remercie de finir par ça.
Merci. Donc, nous nous tournons maintenant vers vous. Donc, à vous d'intervenir, de poser des questions à François. Nous avons abordé quelques aspects, bien sûr, de ces trois romans, mais surtout du dernier roman. Mais quand vous le lirez, vous trouverez bien d'autres plaisirs de lecture dans telle ou telle scène, dans tel ou tel personnage, que ceux que nous avons pu évoquer.
Voilà, moi je vais dire une chose quand même, c'est ma position par rapport à la guerre d'Algérie, parce que c'est évident que c'est vraiment tellement délicat, tellement difficile, et comment être loyal avec tout le monde. Je crois que j'ai essayé dans ce livre de pas caricaturer aussi. Il n'y a pas le colon qui fait suer le burnou. Il y a quand même conscience un petit peu des différents points de vue de Pied-Noir. Il y en a un qui est modéré, il y en a un dont la famille a été massacrée et qui est appelé, qui est dans la section de Maxime, et qui lui forcément a des réactions plus violentes. Il y a autant de protagonistes, autant de vérités quoi, dans cette guerre. Et ce qui est frappant, c'est comment chaque barbarie renvoie à l'autre, quoi, hein, puisque je crois que c'est Camus qui dit pour se justifier de son crime, chacun renvoie au crime de l'autre, quoi. Voilà. Hein. Et là-dessus, bon, il y a eu tellement. Comment dire, d'intermédiaires, que je dirais que qu'ils soient internationaux, qu'ils soient nationaux. Je sais que Camus est, par exemple, le bloc-notes est très intéressant, le bloc-notes de Mauriac. Camus, dans ses chroniques algériennes aussi, ils disent des choses par rapport à cette barbarie. Ils voudraient l'empêcher. Ils se rendent bien compte qu'il y a un point de non-retour qui est franchi un moment et que c'est plus possible. Pendant qu'il reproche à certains intellectuels, Sartre notamment, hein, qui n'a pas, pour parler en termes rugbystiques, trop mouillé le maillot, d'attiser un petit peu le feu en justifiant, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Celui qui préfère ses principes, préfère voir périr son frère que ses principes, celui-là, je me contente de l'admirer de loin, il n'est pas de ma race. Voilà ce que dit Camus, quoi. Voilà.
Il me semble que cette... Ce que tu dis, cette volonté de respecter la totalité des points de vue correspond aussi assez bien à l'univers du roman et des personnages, qui est un univers qui, collectivement, est placé sous le signe du respect de l'autre. C'est-à-dire, autant la tragédie existe sur le plan individuel, autant il y a, et je crois que dans tes romans, cette communauté que l'on voit se constituer et parfois tanguer, c'est une communauté qui arrive en tant que telle, en tout cas, à résister quand même aux fractures, hein, ou aux divisions. et qui, quelque part, n'éclate pas vraiment, ne bascule pas véritablement, elle, en tant que telle, dans le drame, mais qui arrive, quelque part, toujours à estomper un peu, ou pas. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est une vision un peu trop optimiste de la façon dont tu l'as décrit, cette petite communauté-là, qui peut être représentative d'une communauté plus
elle
importante.
Elle l'a connue un peu dans Jour de marché. Elle en connaît le prix. Ça la rend parfois prudente. Mais elle connaît quand même aussi des drames, mais peut-être pas d'aussi grandes tragédies, mais elle l'a connu avec la mort d'Emilio, par exemple, dans le premier.
Oui,
Voilà. Simone l'a commise quand même. On a bien compris qu'elle est... Enfin, je vais pas tout raconter, mais enfin, qu'elle vit quand même une histoire assez catastrophique. Et puis, on sait où on va retrouver la tante Mercé au bout d'une certaine histoire, etc. Donc, il se passe quand même des choses... si c'est pas tragique, intensément dramatique quand même. Et ce qu'il y a un point quand même, peut-être, c'est que je souhaite jamais, mais ça c'est peut-être mon côté mince, c'est pas mon côté bien-pensant, c'est pas mon côté peut-être médecin, peut-être curé, peut-être pas, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'abjection chez mes personnages, même si les personnages qui sont dans le mal, qui font le mal, ne sont jamais abjects. Il y a, c'est pas une rédemption, pardon de citer encore Camus, mais voilà, il dit l'Algérie ne s'en sortira pas. Et c'est valable, ça. Ça, c'est intéressant quand même aussi. Peut-être qu'on peut tirer des leçons pour le présent. Ne s'en sortira pas par l'expiation, mais par la réparation. Voilà. Donc, je crois que pour ça, il faut que les individus... Puis j'ai pas une vision abjecte de l'humanité. Je pense qu'elle souffre et qu'il faut savoir un peu moduler. Et en même temps que je fais bien attention à ne pas... à la niaiserie, bien sûr, dans mes phrases et dans l'évocation des sentiments, mais aussi à pas trop manier, justement, les bons sentiments. Ça me paraît important, quoi. Mais voilà, mais bon.
S'il n'y a plus de questions, je vois que certains commencent à se lever pour prendre... Je ne sais pas, le dernier métro, le dernier tramway, en tout cas, c'est l'heure. En tout cas, nous vous remercions. Et...